Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, le Conseil culturel de Bretagne qui alerte sur la non-mise en place d'une convention signée avec l'État sur un dossier linguistique. Interview avec la Société mycologique de Rennes qui organise son expo annuel ce week-end. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage au Mobilab de la Maison des Squares. Et puis, recommandation, les mini-stars du guidon. Bienvenue dans La Reine. Et tous les jours, on commence cette émission d'information locale avec une info que je retiens pour vous. Aujourd'hui, on relaie les inquiétudes du Conseil culturel de Bretagne, une assemblée consultative de 70 membres qui est reliée à la région. Et on y trouve des acteurs de la scène artistique, culturelle, mais aussi patrimoniale de Bretagne. Mercredi 25 octobre, ce Conseil culturel de Bretagne il a publié un communiqué dans lequel il explique avoir voté fin septembre un vœu dans lequel il s'inquiète de la non-mise en œuvre d'une convention. Le nom de cette convention, c'est le suivant, la convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne. Une convention qui a été signée il y a un an et demi entre la région Bretagne et l'État. Le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, avait même fait le déplacement. Un document qui couvre la période 2022-2027 et dont l'objectif principal était de faire passer le nombre de jeunes locuteurs du breton de 19 000 en 2022 à 30 000 en 2027. Or, depuis la signature, les instances de pilotage elles ne se sont toujours pas réunies. Et en parallèle, la rentrée qui vient d'avoir lieu en septembre 2023 a été marquée par une stagnation des effectifs jugée très inquiétante par le Conseil culturel de Bretagne. Concernant l'enseignement de la langue galaise, des avancées sont toutefois reconnues, avec depuis cette rentrée la création d'un poste de conseiller pédagogique et d'une certification en langue galaise. On est par contre loin d'une stratégie de développement global avec un parcours cohérent imaginé de la maternelle au lycée pour apprendre la langue galaise. Et en tout cas, pour le breton comme pour le gallo, un manque de visibilité est regretté. Au-delà des inquiétudes de cette assemblée consultative liée à la région, on le redit, les réseaux d'enseignement de la langue bretonne ont aussi poussé un coup de grogne et dénoncé à la fin du mois de septembre le manque d'enseignants bilingues dans la région à travers un courrier qui a été adressé au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Allez, après cette info du jour, on passe à une interview. Cécile Percevet, bonjour.
Bonjour Lucie.
Je vous présente, vous êtes membre de la Société mycologique de Rennes qui, on le dit tout de suite, organise son traditionnel événement autour des champignons sous forme d'exposition. Ça se passe samedi 28 et dimanche 29 octobre à l'écomusée de la Bintinet à Rennes. Vous êtes membre de la Société mycologique de Rennes depuis quand, Cécile ? Ça fait un petit moment, je crois.
Ça fait une petite dizaine d'années, effectivement. Et j'ai toujours plaisir à participer aux sorties et à la découverte, parce que c'est le monde des champignons est un monde très intéressant, et je dirais même avec des connaissances qui évoluent, on les a jamais toutes, donc on a toujours plaisir à participer aux sorties et aux formations.
Au départ, ce qui vous a motivé à rejoindre cette association, c'était l'idée de pouvoir manger des champignons que vous alliez cueillir vous-même.
Oui, tout à fait, je crois qu'on est tous... on est français, on aime la bonne nourriture, mais j'avais aussi envie forcément d'en manger, d'en connaître plus, ce qui s'est passé quand même, et aussi quand même l'idée aussi d'aller en forêt davantage, parce que quand on est en groupe, on se motive davantage, de découvrir la nature, et j'avoue que sur ce volet-là, c'est une grande satisfaction de se retrouver en groupe avec des gens, des experts, parfois nous aussi donner des conseils à des nouveaux. Donc cet aspect-là d'être dans la nature le dimanche, ensemble, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi.
La Société mycologique de Rennes, c'est une association donc, qui a été créée il y a plus de 30 ans, qui rassemble aujourd'hui une centaine de passionnés, donc de champignons. L'automne, c'est un peu le moment le plus important, mais il se passe aussi des choses le reste de l'année.
C'est vrai. Les sorties champignons, c'est essentiellement de mi-septembre à mi-décembre à peu près. Donc c'est tous les dimanches, hein, sauf le dimanche prochain où on sera tous mobilisés à la Bintinet. Mais aussi on propose au printemps des sorties nature. Alors ça peut être la botanique, ça peut être les algues, ça peut être les oiseaux, ça dépend. Et il y a aussi des champignons au printemps. Moins, mais il y en a.
En plus de ces sorties sur le terrain qui sont sans doute les moments les plus identifiés dans la vie de l'association, il y a aussi des choses qui se passent plutôt à une table, en intérieur, en train d'écouter, des moments de formation. Il y a des conférences, il y a des choses en ligne, sous forme de MOOC, des formations en ligne. Et je crois que c'est les lundis soirs qu'il y a souvent des moments de détermination des champignons.
Tout à fait. Le lundi soir, pourquoi le lundi soir? Parce que c'est le lendemain du dimanche. Hein. Donc le dimanche, on sort ensemble ou certaines personnes peuvent aussi sortir sans venir à la sortie proposée. Et puis on se retrouve le lundi soir et chacun amène un petit peu ses spécimens qu'il n'a pas réussi à identifier ou qu'il veut partager avec des gens qui sont plus récents dans l'association, qui sont en train de découvrir les choses plus faciles, on va dire. Et puis les choses difficiles, elles sont également regardées. Ça, c'est un moment fort aussi. Pour ceux qui veulent vraiment s'investir, le lundi soir, c'est important aussi, ouais.
Il y a plusieurs générations qui se côtoient dans l'association, et notamment une jeune génération. Et l'une des membres de la SMR, la Société Mycologique de Rennes, vient de vivre un petit moment de gloire. C'est une pharmacienne, jeune pharmacienne rennaise, qui vient de décrocher un cep d'or au mois d'octobre dans le cadre d'un concours que vous connaissez bien.
Oui, tout à fait. Chaque année, les mycologues de France, voire de l'étranger, se retrouvent à Bellem, dans l'Orne, pour 4 jours d'études, une grande exposition aussi, parce qu'il y a des très très belles forêts à Bellem. Et le samedi, il y a un concours pour les jeunes mycologues. Et effectivement, cette année, c'est une Rennaise qui l'a remporté. Nous sommes très fiers. Je pense qu'elle a bénéficié aussi de... Enfin, elle a bien travaillé, hein, parce qu'on ne vient pas mycologue sans effort, hein, pour arriver à ce niveau-là. Elle a aussi eu l'aide de notre président, Pascal Puech, qui l'a permis de remporter. Donc c'est une très grande fierté pour l'association, oui.
Quelques questions, champignons, avant d'arriver aux événements, donc notamment cette exposition mycologique le week-end prochain, mais aussi d'autres sorties à venir. Quelques questions, champignons, parce que vous n'êtes pas venu seul en studio, à côté de vous, il y a un petit papier avec un peu de paille, on dirait de la paille, et donc des champignons que vous êtes allé cueillir ce matin.
Oui, tout à fait.
Je vous ai fait travailler.
Exactement. Et en peu de temps. C'est ça aussi qui est intéressant. Je me suis dit, Lucie m'a demandé de venir avec un champignon. Donc, je voulais apporter un champignon frais, pas celui de dimanche, parce que ça aurait été un peu pourri. Donc, je suis allée autour de chez moi et j'ai trouvé plusieurs petites choses et un échantillon assez intéressant, ma foi. Et bon, évidemment, dans les 4 que j'ai là sous les yeux, aucun ne se mange. Mais on est quand même des choses intéressantes pour les gens qui s'intéressent aux champignons. J'ai entre autres des champignons qui peuvent être confondus avec des espèces comestibles, des champignons à lame, des champignons à tube, des champignons sans lame, sans tube. Donc le règne fongique est vraiment un règne plein de ressources et plein de bonheur. En fait, moi, si vous vous intéressez un petit peu aux champignons, je vous encourage vraiment à vous y intéresser davantage si vous avez un peu de temps, parce que bon, ça se passe dans la nature. C'est quand même toujours un petit challenge que d'arriver, un petit défi que d'arriver à déterminer les champignons. Enfin, pas les plus courants, mais voilà. Et en général, on fait ça en groupe, donc c'est plein de bonheur les champignons.
Il existe des milliers de champignons, une toute petite partie finalement est comestible. Évidemment, on le redit, la toxicité, c'est le plus grand risque.
Exactement.
Quand on se lance dans la cueillette de champignons. Depuis le 1er juillet, il y a eu plus de 600 personnes en France qui ont déjà été intoxiquées. Le meilleur conseil, c'est donc de ne pas se lancer seul.
Tout à fait. Il y a des champignons qui sont mortels, hein, et un seul chapeau suffit pour vous tuer, hein. C'est la phalloïde, la manite phalloïde, et puis ses petites cousines. Donc il faut faire très très attention. il faut pas hésiter à aller dans les pharmacies. Il y a quand même des pharmaciens qui sont compétents. Et puis moi je dirais venez dans les sociétés mycologiques, renseignez-vous et surtout la plus grande prudence. On n'est pas dans un pays de disette. Ma petite fille dit, ben, je lui explique ça, je lui dis, faut faire attention aux champignons. Elle me dit, c'est mieux d'aller les chercher au magasin. Eh bien, parfois, il faut mieux. Parce que prendre le risque d'une intoxication aux champignons, c'est quand même, ça peut être dramatique. Hein.
On peut parler un peu de la détermination, donc de la façon dont on reconnaît un champignon. Ça se joue au visuel, pas que. Vous me disiez, on les sent aussi,
ah oui,
les champignons.
C'est très important. Hein. On regarde son chapeau. Alors, déjà, on ne parle, bien sûr, je vais quand même faire un petit rappel ou une petite information. Ce qu'on appelle en général le champignon n'est que le fruit. En fait, le champignon, il est sous terre. C'est le mycélium, c'est immense. Il y en a plein partout. On ne les voit pas. Et à certains moments, et certaines espèces fructifient pour se reproduire. Et là, on voit ce qu'on appelle le champignon. C'est-à-dire, en général, ce que le grand public appelle les champignons, c'est un pied et un chapeau. Mais sachez qu'il y a toute forme de champignons et qu'il y en a même qui sont souterrains. Enfin, on connaît les truffes et tout ça. Donc, du coup, comment on les détermine? Alors, c'est vrai que... Et il y a plusieurs étapes. Déjà, on regarde la partie fertile, hein, qui en général, mais pas toujours, sous le chapeau. Donc, pour les plus courants, on a souvent des lames. Mais le fameux cèpe et bolet, on a des tubes. On peut aussi avoir des plis pour les girolles. Et puis, on a d'autres champignons qui n'ont ni plis, ni tubes, ni lames. Voilà. Alors, donc on regarde son chapeau, on fait bien attention aux confusions, comment sont attachées les lames, son pied, s'il a un anneau, la forme. Alors ça c'est important, ça c'est très important pour vos auditeurs. Comment la forme de son pied, l'extrémité de son pied. Il y a toujours la question, est-ce qu'on doit couper ou arracher un champignon? Et ça, si vous n'êtes pas sûr, il faut absolument déterrer le champignon. Parce que la forme du pied, l'extrémité, est très importante pour la détermination.
Et ça favorisera peut-être aussi la repousse, non, de le
Alors,
cueillir
non,
comme
non,
ça
c'est Non, c'est comme si on vous disait que de couper une pomme ou de l'arracher, ça changeait quelque chose. Non, ça ne change rien de ce point de vue-là. Mais c'est surtout pour la détermination. Parce qu'il y a quand même des espèces, et c'est pour ça qu'on a des intoxications, il y a quand même des espèces qui se ressemblent beaucoup. Là, devant vous, j'ai une amanite panthère. Donc moi je la reconnais, je sais que c'est une amanite parce qu'elle a la lame blanche, elle a les lames libres. Je reconnais son anneau, je reconnais ses petits points sur le chapeau. Elle a une cousine qui lui ressemble beaucoup, c'est l'amanite épaisse. Même chose sur celui-là, qui est une grosse confusion aussi. Une confusion, donc celui-là il est toxique. Là aussi c'est des toxiques que je vous ai amenés. C'est le hasard, hein. C'est ce que j'ai rencontré sur mon chemin. Donc là c'est pareil, on a une confusion possible avec le célèbre meunier. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et là, finalement, quelqu'un qui n'est pas très habitué, il ne mangera pas comme ça.
Oh, moi, j'aurais pu me dire que c'était un champignon de Paris, honnêtement, en voyant celui-ci.
Alors là,
pour
voilà.
Quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien.
Voilà, la couleur des lames, tout de suite. Hein, le champignon de Paris, c'est rose, voire brun, quand ça commence à vieillir. Donc là, on est bien sur des lames blanches, et là, c'est un toxique. Alors, on a parlé de l'odeur. Alors, celui-là, une odeur que n'a pas le champignon de Paris, il sent vraiment la farine.
Le résultat de tout ça, c'est que finalement, vous mangez peu de champignons.
Et oui, c'est la surprise un petit peu pour beaucoup. On croit que quand on adhère à la société mycologique, on va en manger plus. C'est pas tout à fait faux, parce qu'on connaît quand même des comestibles qu'on ne connaissait pas forcément avant, mais on devient extrêmement prudent. Et tous les mycologues, les grands mycologues, sont extrêmement prudents. Parce que aussi, on connaît les intoxications et on connaît les dégâts que ça peut faire. Donc on commence souvent mycophage, hein, et puis on finit souvent mycophile, parce que sans doute que le plaisir de la cueillette est ailleurs que dans la poêle. Mais on en mange quand même, mais assez peu en fait.
On va maintenant annoncer plusieurs événements à venir, donc organisés par la Société Mycologique de Rennes. Il y a d'abord 8 sorties qui sont prévues jusqu'à mi-décembre, alors des sorties qui sont plutôt pour les adhérents de la Société Mycologique, mais il se trouve qu'il y a parmi ces dates un rendez-vous ouvert au grand public et que vous animez, c'est le 11 novembre prochain.
Exactement, c'est une tradition à la SMR que de proposer le 11 novembre une sortie grand public ouverte à tous. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la SMR. Alors donc, j'encourage ceux qui sont un petit peu intéressés à venir voir. Donc je crois que c'est à 13h30 le rendez-vous sur le parking de la Taupinay.
C'est dans le quartier de la Prévalet.
Oui, exactement. Donc, on parcourra les forêts, les allées de la Prévalet. On trouvera beaucoup de choses, je pense. Enfin, chaque année, on en trouve beaucoup. Et puis après, on fera une mini-exposition et on pourra répondre aux questions. Voilà. Et pour des gens qui se diraient, en écoutant notre échange, moi, j'aimerais bien adhérer. C'est tout à fait possible. Hein, c'est pas cher. Je ne donne pas le prix, mais vous irez
sur le site. Le tarif est tout à fait raisonnable
à l'année. Il est familial. L'adhésion est familiale. Et ça vous donne accès à plein de sorties.
J'ai regardé les différents lieux de cueillette. Alors, je connaissais uniquement la forêt de Corbière en pays de Châteaubourg. Il y a des lieux vraiment un peu privilégiés dans le département. Il y a souvent la forêt de Liffré qui revient.
Oui, il faut que la forêt soit domaniale. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de forêts privées. Donc, on ne va que dans les forêts domaniales. Et on va plus ou moins toujours aux mêmes endroits. Aussi, il y a un intérêt aussi à changer, c'est qu'on ne trouve pas forcément les mêmes choses partout. Donc nous, on cherche quand même la variété, faire découvrir des nouvelles espèces. Donc voilà. Et donc la Prévalet fait partie des endroits où on trouve des choses. Alors, peu de comestibles, même si j'en ai trouvé cet été, parce qu'on a il y a eu une vraie pousse là, il y en a eu un peu depuis dans l'été, mais j'ai trouvé des choses à la Prévalet, des cèpes de Bordeaux, mais là on n'en trouvera sans doute pas beaucoup, mais on peut en trouver et on trouvera plein de choses quand même.
Et donc cette exposition mycologique, un événement annuel qui là a lieu samedi 28 et dimanche 29 octobre. Le samedi c'est de 14h à 18h et le dimanche de 10h à midi puis de 14h à 19h. Ça se passe ici à Rennes, à l'écomusée de la Bintinet. Et si la météo est favorable, plus d'une centaine d'espèces vont être présentées. Elles seront donc cueillies les jours précédant l'événement ?
Tout à fait. On va se mobiliser. Beaucoup de membres de l'ASMR vont aller vendredi, samedi matin, chercher un exemplaire de chaque espèce. Et puis, elles seront présentées, expliquées. Justement, on parlait tout à l'heure des odeurs. On vous fera sentir certains champignons. Parce que c'est assez bluffant. Hein. On a des odeurs d'anis, des odeurs de noix de coco. Alors, les mycologues sont très forts. Hein. Des odeurs de gaz de ville, des odeurs de poulailler, enfin c'est infini.
Et en plus de sentir, de voir, le public pourra poser ses questions donc à l'association dont vous êtes membre, la Société Mycologique de Rennes, en apprendre plus grâce à des panneaux d'information et il y aura aussi un film projeté, je crois. Vous serez combien de bénévoles mobilisés ?
Oh, c'est énorme, hein, entre ce que vous verrez derrière les tables, les déterminateurs qui seront, je ne sais pas, je pense une vingtaine, peut-être entre 20 et 30. Hein. C'est quelque chose qu'on aime bien faire, parce que nous-mêmes, parfois on voit des champignons qu'on n'avait jamais vus, hein, parce qu'on a dit qu'il y en avait plusieurs milliers, donc, qu'on voit de temps en temps, donc c'est vraiment un temps fort et très agréable. Je pense que les gens qui viennent sont souvent abasourdis par la variété, par le nombre d'espèces qu'on peut avoir.
Et au-delà des champignons, il y aura un nouveau focus qui sera fait cette année sur les algues, des organismes vivants présentés comme très proches des champignons. Je vous représente Cécile Persuet, vous êtes membre de la Société Mycologique de Rennes qui organise son traditionnel événement autour des champignons sous forme d'expo. Ça s'appelle Passion Champignons et ça se passe ce week-end, samedi 28 et dimanche 29 octobre. Le samedi tout l'après-midi et puis le dimanche durant toute la journée, ça se passe à l'écomusée de la Bintinet à Rennes. L'entrée est libre et c'est pour tout public. Pour plus d'informations, il y a le site écomusée-rennes-métropole.fr et pour vous retrouver, la Société Mycologique de Rennes, vous êtes présent sur un site internet futur.sociétémycologiquederennes.fr et vous êtes aussi présent sur une page Facebook. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Droit vers la mer pour un lever de lune. les plages du Nord.
Gaëtan Nonchalant sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B, et qui est à retrouver sur un album sorti le 29 septembre chez Objet Disque. C'est le premier disque du musicien français Gaëtan Nonchalant qui, nous dit-on, chante l'absurdité et la puissance de la vie. Vous êtes en train d'écouter L'Arène, c'est l'émission d'info locale de Canal B que vous écoutez sans doute sur le 94.0, mais nous sommes aussi connectés sur le site canalb.fr où vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions animées par des salariés mais aussi des bénévoles. L'émission d'info locale se poursuit avec maintenant un reportage. Et on prend la direction du tout nouveau Polyblown, un pôle associatif inauguré il y a peu, à deux pas de la station de métro Triangle. Au deuxième étage, au fond d'un couloir, Sarah anime le Mobilab, un lieu de fabrication et de réparation qui s'apprête à lancer un Repair Café mensuel. Et le premier, c'est samedi 28 octobre de 15h à 18h. Une activité lancée en lien avec le réseau Fondation Repair Café International. Le reportage, c'est maintenant.
Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui ?
Les boucliers.
Ouais. Je vous montre un exemple.
Ouais, ils n'ont pas vu ce d'hier, on n'a pas fini de l'éteindre.
Alors, on va faire des boucliers où on peut choisir la forme, choisir ce qu'on met dessus et partir de motifs. Après, on les découpe et on les grave à la découpeuse laser. Et il n'y a plus qu'à les décorer à la peinture. Ok ?
Ok.
C'est cool ? Super.
Moi, je suis Sarah et je travaille à la Maison des Squares pour le Mobilab. Pour faire court et simple, c'est une association d'éducation populaire qui est située au Blône, qui existe depuis 1974, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, qui avant avait des locaux un petit peu partout sur le quartier en bas de tour et qui, depuis fin septembre, a enfin pu ouvrir ses locaux dans un bâtiment tout neuf qui s'appelle Polyblown.
Où on se retrouve pour discuter. Et là, on est donc dans le Mobilab. C'est quoi le Mobilab ?
C'est un atelier de fabrication et de réparation. Il y a des temps classiques qu'on retrouve dans tous les labs dits d'Open Lab, où les outils sont à dispo et les personnes peuvent venir les utiliser pour fabriquer, réparer, voilà.
Ce temps d'Open Lab, c'est le mercredi matin et le jeudi toute la journée. Détail des horaires en ligne sur mobilab.maisondesquoires.org.
Et il y a aussi des temps plus ciblés. Par exemple, le lundi après-midi, on a un atelier bois, où là, c'est balisé sur ce temps-là, parce que travailler le bois, ça fait beaucoup de bruit. Du coup, il faut qu'on s'organise avec les voisins. On a des temps aussi le mercredi après-midi pour les enfants. Un temps qui s'appelle La Fabrique, où on est autour du bricolage aussi et des arts plastiques, avec en gros un thème par mois. Et on apprend à serrer ses mains et à créer plein de trucs.
Il existe depuis quand ?
2020.
Les outils dont on parle, c'est ce qu'on voit derrière nous, là ? Ou il y a d'autres choses ?
Alors, il y a aussi d'autres choses. Là, ce qu'on voit derrière nous, c'est le panneau avec tout ce qui est outils à main, principalement pour le bois. Mais si on regarde là-dessous, on a plein d'électroportatifs aussi pour le bois. On a un peu plus caché des machines à coudre, une découpeuse laser, une imprimante 3D, de quoi faire de la sérigraphie, du petit bricolage, voilà.
Qui sont les publics qui viennent ? Est-ce que vous êtes encore en train d'aller les chercher ? Parce que sur le bricolage, on n'a pas tous justement les compétences. Il y a peut-être certains freins à lever pour faire venir vraiment tous les publics ?
Ouais. On a déjà du public qui est là, ça c'est sûr. Des personnes nouvelles qui sont arrivées avec le nouveau bâtiment. On a quand même beaucoup plus de visibilité. C'est un lieu qui sert aussi pas mal en interne de la Maison des Squares. Parce que là, bah, par exemple, tout à l'heure, on a les enfants qui arrivent, qui sont les enfants du centre de loisirs de la Maison des Squares. Et on a aussi des personnes qui ne savent pas du tout que ça existe. Raison pour laquelle aussi, on va pouvoir faire des choses en rez-de-chaussée, comme le Ripper Café, qui est tout vitré. Et où on va peut-être un peu plus nous voir, voilà.
Là, on discute tranquillement, mais il y a un groupe d'enfants donc qui va pas tarder à arriver pour un atelier. Vous allez faire quoi ?
Alors, cette semaine, au centre de loisirs, ils sont sur le thème du Moyen-Âge. Et du coup, on va fabriquer des boucliers à la découpeuse laser. L'idée étant de passer d'abord sur ordi pour choisir sa forme de bouclier, car il peut y avoir plusieurs formes, les petits motifs qu'on veut mettre dessus. Et après, on les met à graver dans la machine et à découper. Puis les enfants peuvent les peindre, faire une petite sangle derrière pour l'avoir bien en main.
C'est la machine qui fait toute seule ?
Quasi. On lui dit quoi faire sur l'ordinateur. Donc ça passe à la découpeuse laser et après, elle fait ce qu'on lui dit. Okay. Donc, comme toute machine, si on dit rien, il se passe rien. Si on lui dit des bêtises, elle fait des bêtises. Et si on lui dit bien, elle fait ce qu'on veut. On n'a pas besoin de programmer. C'est pour ça que c'est un super chouette outil. J'allais dire pour les enfants, mais non, pour tout le monde. C'est trop bien pour ça. Oui, évidemment, il y a un moment où nous, on ne le voit pas. Ce qu'on a demandé est transformé en code. Mais on ne programme pas en tant que tel, dans le sens écrire du code. Par contre, effectivement, on va dessiner tout ça et le logiciel va envoyer du code à la machine.
Maintenant,
okay. Alors, là, il est un peu
ici,
petit.
Tu vas dans le petit on carré, tu as les symboles que Sarah propose. Pour en glisser un, je te montre. Par exemple, l'éclair.
Tu as déjà fait ?
Oui. Tu sais comment ? Il faut juste glisser là, et tu lâches.
Vas-y,
on va voir si tu sais faire. Super.
Tu cliques dessus, tu as...
Tu sais comment on fait pour changer leur taille ? Ah, je vais te montrer après.
Ça, j'ai pas appris.
Et alors, c'est quoi le rôle d'un fab manager ?
Eh ben, ça va être d'encadrer les personnes dans l'utilisation des outils. C'est-à-dire que moi, je pars toujours du principe que tout est possible. Si on ne sait pas, on va même chercher à se renseigner. Par contre, il y a quelques règles de sécurité quand même pour utiliser les outils. Pouvoir aussi... la démarche de mise en place de projets, notamment avec les groupes. Il y a des assos partenaires, des écoles qui peuvent venir ici. L'idée, c'est d'accompagner un peu et de tirer le fil. On ne fait pas juste du bricolage pour le bricolage. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Comment on peut monter le projet pour que ce soit intéressant pour le public ? Il y a un rôle d'entretien aussi du matériel et des machines. Voilà, il s'agit que ce soit toujours en état pour que les personnes puissent venir s'en servir. Et puis, il y a... Alors, c'est peut-être pas le cas dans tous les Fab Labs, mais... c'est le cas dans celui-là, il y a aussi un rôle assez social et d'accompagnement dans l'idée de montrer aux personnes qu'elles savent faire, en fait. Souvent, j'ai des gens qui arrivent en disant « Ah, mais je ne sais pas faire !» Moi non plus, je ne savais pas faire. On n'a pas la science infuse, en fait. Mais bah, on apprend à faire, et c'est assez chouette. Et voir des personnes qui sont rentrées en disant « Ah non, mais je ne saurais pas faire, on m'a traîné là, mais je n'ai pas envie. » Et qui repartent avec le sourire en disant « Waouh, j'ai fait un truc trop cool !» C'est hyper chouette.
Et sur la dimension partenariale là, que vous évoquiez, ça change les choses d'être ici, là, au Polyblot, dans un bâtiment tout neuf, impressionnant, avec plein d'acteurs qui s'y croisent ?
Là, c'est que le début. Alors, c'est difficile de jauger, mais sur les liens que j'avais déjà avec des assos, on voit déjà que ça change des choses. Bah, en fait, les locaux, on a envie d'y rentrer, ce qui n'était pas toujours le cas avant. on a des salles autour, il y a possibilité... avant, j'avais un tout petit local où il n'y avait que ça. Là, si on commence à se marcher dessus, on peut dire « Ah, ok, peut-être qu'on peut passer à l'étage en dessous à l'accueil jeune ou même rester dans le hall parce qu'il y a un coin où on peut se poser. » Voilà, il y a beaucoup plus de possibilités, en fait.
On se retrouve pour annoncer un Ripper Café qui est organisé samedi prochain, donc c'est le 28 octobre, de 15h à 18h ici au Polyblown, avec la maison des Squares. Le point de départ à ce lancement, c'est quoi ?
Il y a l'idée de se dire qu'un Ripper Café, en fait, au sein du quartier du Blown, ça fait particulièrement sens. On est dans un quartier qu'on appelle pudiquement prioritaire, avec des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources économiques. Se dire qu'on peut réparer des choses plutôt que de les racheter, ça fait vraiment sens. Il y a aussi tout un enjeu écologique hyper fort. Là, on est par exemple sur vraiment une montée en puissance de tout ce qui fonctionne sur batterie. On a des trottinettes partout, des vélos électriques, tout ça. C'est très très bien, sauf qu'en fait, ce qu'on dit est trop peu, c'est que les ressources en lithium sont déjà quasi au bout. Donc c'est pas ça qui va nous sauver. À un moment, il faut aussi apprendre à réparer ces outils-là, à les retraiter, arrêter de remplacer des choses qui étaient peut-être mécaniques ou qui fonctionnaient d'une autre manière, tout par de l'électrique, parce que, toujours pour les mêmes raisons. Et puis, essayer de changer un peu la donne. Avant, il y avait vraiment ces choses assez claires de « on achète un objet, la garantie n'est plus bonne, bah, ça va coûter trop cher à réparer, ok, on va carrément en racheter. » Non, on peut faire autrement en fait. Il y a les connaissances, il commence à y avoir les ressources. Il y a des gens qui savent faire, notamment tous les bénévoles là, qu'on va recevoir ce week-end. Partageons ces savoirs-là, quoi. Voilà.
Qui sont ces bénévoles ?
Principalement des personnes du quartier. Mais pas que. On a Camille et Nawel qui viennent filer un petit coup de main sur la couture pour tout ce qui est petite réparation. Patrick qui habite un petit peu à côté, qui lui est à la poterie, qui avait déjà pour habitude de récupérer les choses qui traînent dans la rue avec trois fours, en refaire un. Mathieu qui est à fond sur tout ce qui est électronique et électricité, qui sait retaper de l'électroménager. Guillaume qui sait s'en sortir avec de la retape de meubles. Malo qui est prof de méca-cycle. Du coup, il enseigne beaucoup, mais en fait, lui-même, il répare peu. Et là, il est content de venir vraiment réparer cette fois-ci.
Prof de quoi ?
De mécanique cycle, en CFA, ouais. J'espère que j'ai oublié personne, mais je crois pas. Ah, et Laurent aussi, que j'avais oublié, qui lui vient pas avec des compétences particulières de réparation, mais qui a envie d'apprendre et qui a envie de faire tourner ce côté convivial, parce que dans Ripper Café, il y a certes Ripper, mais il y a aussi café. Et lui, ça lui dit bien de venir orienter les gens, tenir la cafette, faire du lien, et ça va être super chouette aussi, et c'est important qu'il soit là également.
On peut venir entre 15h et 18h avec des objets, mais aussi des vêtements. Il était question de couture. Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui ne peuvent pas se réparer, finalement ?
Alors, qui ne peuvent pas se réparer, pas sûr, mais que nous, on ne peut pas prendre en charge, oui. Pour donner une indication, on dit que chaque personne peut venir avec un objet, éventuellement plus, mais de base, c'est un objet qu'on répare, et il faut pouvoir le porter soi-même dans ses mains. Ce qui permet d'exclure les lave-linges, les lave-vaisselles et autres voitures, par exemple. On est plutôt sur des petits objets.
Et être prêt donc à être acteur dans la réparation, ouais. C'est ça l'idée ?
Tout à fait. Oui, il y a vraiment cette idée de... On a des bénévoles qui ont des compétences, mais ils ne sont pas là pour faire gratuitement le travail de gens qu'ils font de manière payante ailleurs. On n'est pas là pour ruiner le marché de la réparation à Rennes. C'est vraiment l'idée d'apprendre à faire avec l'aide de quelqu'un qui nous guide.
J'aurais bien aimé donner des exemples d'objets qu'on a peut-être tendance à acheter rapidement parce qu'on se dit que ça coûte moins cher d'en racheter un neuf et où en fait la réparation peut être assez facile.
De base, j'ai envie de penser aux vêtements en fait, plus qu'à un objet en tant que tel, parce qu'on est vraiment dans une surconsommation de vêtements qui est assez folle, où il y a un truc où même quand c'est pas abîmé, c'est « Ah, je vais mettre sur Vinted » et puis quelqu'un va racheter, on a l'impression de faire un truc écolo d'enfer. Sauf que non, tout le monde fait ça et on continue de consommer toujours autant de fringues. Du coup, vraiment ce truc de « J'ai un bouton qui a lâché, la fermeture qui marche plus », c'est des toutes petites réparations en fait, juste que souvent on sait pas faire et ça permet de repartir pour 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin c'est hyper intéressant. Sur l'électroménager, c'est parfois un peu plus compliqué, on ne sait pas forcément ce qu'a lâché, mais quand on essaye et qu'on y arrive, pour le coup, c'est hyper valable.
Aujourd'hui, on parle d'obsolescence programmée et d'objets qui sont conçus pour ne pas être réparables. Ça peut être un frein quand les personnes arrivent à un Ripper Café avec leur... Alors, je pense au téléphone, c'est peut-être pas le meilleur exemple.
Mais... Ça peut aussi, si le téléphone, on a une question d'obsolescence programmée, mais c'est aussi parce que jusqu'à il y a peu,
C'était très difficile de récupérer des pièces détachées. Maintenant, il y a quand même des sites internet qui permettent de faire ça. On peut les récupérer, alors c'est minutieux, ça prend un peu de temps, et encore pas tant, et souvent ça change les choses. En fait, oui, il y a eu une question d'obsolescence programmée à un moment où on était coincé parce qu'il n'y avait pas les pièces, il n'y avait pas les connaissances, il n'y avait pas du tout ces communautés-là de réparation. Maintenant, on continue de se dire un peu mécaniquement « Ah, c'est pas de ma faute, c'est l'obsolescence ». Parfois, oui, c'est le cas, mais il y a d'autres moments où aussi, on a juste la flemme. Et en fait, on peut aller en farfouillant. C'est quand même de plus en plus encouragé d'un point de vue des politiques publiques qu'il y ait des pièces de rechange, des manières de les changer, où c'est expliqué. Du coup, le tout, c'est de se lancer, quoi. Et ce qu'on essaye de dire pas mal aussi, c'est peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais vous arrivez avec un truc qui déjà ne marche pas, qui pourra pas marcher moins bien, finalement. Si on n'essaye pas, on n'apprendra jamais et on va jamais sortir de ce truc-là. C'est pour ça que c'est important d'aller dans les repair-cafés, ou même, si on n'a pas envie d'aller dans des repair-cafés, chez soi, taper le nom de son objet sur Internet, réparation, et se rendre compte qu'en fait, il y a une foule de docs.
Et de tutos.
Ouais, faut prendre le temps, quoi.
J'ai pas d'autres repair-cafés en tête qui seraient organisés régulièrement à Rennes. C'est une première ou...
Alors non, c'est pas du tout une première. Et en farfouillant un peu, pour moi, Calimédate, parce que l'idée, c'est qu'on ne soit pas tous en même temps, je suis rendu compte qu'il y en a un juste à côté, à la maison de quartier Sainte-Thérèse. J'étais pas du tout au courant. Il y a celui de la Bélangerie, il me semble, qui tourne pas mal. Il y en a aux Trois Maisons. Il y en a un qui a lieu de temps en temps au Jeu de Paume. En fait, il y en a plusieurs sur Rennes.
Ce Repair Café, c'est en fait le premier d'une série, puisque ça va devenir un rendez-vous régulier, donc à partir de ce mois d'octobre, de façon mensuelle.
C'est ça, ouais. Généralement, le dernier samedi du mois. Sauf le mois prochain où c'est l'avant-dernier.
Et pour participer à un Repair Café, bien, il suffit d'adhérer à la Maison des Squares, qui est une association. Le tarif est de 3 euros pour l'année.
Il y a une activité dont je n'ai pas du tout parlé. Pendant les vacances scolaires, on organise des stages créatifs avec à chaque fois une personne qui vient, artiste, artisan, voilà. Et là, il nous reste un petit peu de place pour un stage de linogravure estampe la semaine prochaine, lundi, mardi après-midi, 2 fois 2 heures avec Mathilde Bodiguel qui est... hyper calé là-dedans, qui a prévu un programme trop trop bien. Et c'est 20 euros pour les deux après-midi, voilà.
Et ça veut dire quoi, linogravure ?
Alors c'est une technique de gravure puis d'impression en plusieurs fois. On va venir graver à l'aide de gouges, c'est un petit outil en métal, un motif ou une illustration. On l'encre et ensuite on peut poser une feuille dessus et servir d'une presse pour l'imprimer autant de fois qu'on veut sur notre papier.
J'ai appuyé sur le bouton pour mettre en route, à toi l'honneur. Ouais. C'est parti.
C'est ton bouclier, ça?
Regarde.
Et après, tu vas le peindre? En quelle couleur?
Non, violet.
C'est quoi tes couleurs préférées?
Ma, ta couleur préférée, c'est quoi?
Moi, c'est le bleu.
Comment?
C'est vrai? Oh, bah, c'est fou, ça.
Trash Kit et le morceau Bed, c'est la recommandation musicale de Sarah Boulanger du Mobilab de la Maison des Squares qu'on vient d'entendre dans un reportage. Et le titre qu'elle a choisi est à retrouver sur le premier album de Trash Kit, sorti en 2019. Trash Kit, qui est un trio britannique qui verse dans le post-punk. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B continue. Émission qui a quitté les réseaux sociaux depuis le mois de septembre. Désormais, chaque vendredi, j'envoie une newsletter qui s'appelle Le Courrier de l'Arène et dans laquelle je mets en lumière des reportages et des interviews qui ont été diffusées au cours de la semaine. Si vous souhaitez recevoir cette newsletter, vous pouvez vous abonner en m'envoyant un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et avant de se quitter, on termine avec la recommandation du jour. À chaque fois en fin d'émission, des conseils de choses à voir, à lire, à écouter ou à vivre. Aujourd'hui, on annonce un événement jeune public. Pour la deuxième année consécutive, la STAR, Société de Transport de l'agglomération rennaise, organise les mini-stars du Guidon. Rendez-vous place Saint-Germain à Rennes, samedi 28 octobre de 14h à 17h, pour une animation autour de la sécurité routière à destination des enfants de moins de 10 ans. Ces enfants, ils peuvent venir avec leur vélo ou leur draisienne, et puis leur casque évidemment. Sur place, l'association Roisen Mobility, qui a lancé sa vélo-école en 2015, proposera des parcours pédagogiques avec des circuits, des feux tricolores, des panneaux de circulation et des défis. Une initiative qui s'inscrit dans le projet de la mairie de Rennes de penser une ville à taille d'enfant. Et cet événement, il sera aussi l'occasion pour les enfants de découvrir la nouvelle mascotte du réseau STAR, Bougeotte, c'est son nom, qui, d'après les visuels, a l'air d'être une hermine ou bien un furet. Je pense que c'est plutôt une hermine. Et pour les plus grands, cet événement, ce sera aussi la possibilité de découvrir les équipes de la Maison du Vélo Mobile, un service de la STAR et de Rennes Métropole. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de l'Arène, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.